Pour nos jeunes auditrices et auditeurs, donc vous êtes nés en 1928 à l'Alba'a Nathiraten, école primaire à Berwaghia, secondaire à Mdia, Blida et Alger Ben Aknoun, puis des études de médecine à Alger. Lycéen, vous êtes responsable dans la Mitidja des scouts musulmans algériens. En 1944, vous adhérez au Parti du peuple algérien, MTLD, à partir de 1946. À partir de 1947, vous êtes l'un des principaux animateurs de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, AEMAN, dont vous serez président élu, on précise bien, en 1949-50. 1949, vous quittez le MTLD suite à ce qui était appelé la crise berbériste et autres qualificatifs que vous remettez d'ailleurs en cause. 1951, adhésion au Parti communiste algérien, PCA, membre du bureau politique en 1955, l'interdiction du PCA pendant la guerre vous contraint de cesser vos activités de médecin praticien et chercheur universitaire pour entrer dans la clandestinité. Condamné par contumace aux travaux forcés, responsable national adjoint des combattants de la libération, les CDL, des rencontres sont organisées au printemps 1956 entre le PCA, représenté par Bachir Hajjali et vous-même, et le FLN, représenté par Ibn Ramdan et Ben Youssef Ben Khadda. L'opération Henri Maillot a facilité, entre guillemets, les accords. Indépendance, reprise des activités médicales et de recherche, et au parti PCA, interdit dès novembre 62 par Ben Bella. 19 juin 1965, coup d'état de Boumediene, vous reprenez le chemin d'une longue clandestinité de 24 ans. Le PCA devient parti d'avant-garde socialiste en 1966, dont vous serez le premier secrétaire en 1967. Vous revenez à la vie légale en 1989, suite aux événements d'octobre 88 qui ont permis le multipartisme. 1992, fin de vos activités partisanes, et c'est l'exil. Depuis, vous vous consacrez à des travaux de recherche, à l'écriture. Aujourd'hui, le premier tome de vos mémoires, intitulé « Quand une nation s'éveille, 1928-1949 », publié par Inès Éditions avec la collaboration de l'historienne Melika Rahel, il est disponible dans toutes les librairies algériennes. Alors évidemment, il faudrait des heures d'émission avec vous hein, pour aller au fond des choses, ce que notre magazine Fashhadou, Histoire et Mémoire, ne peut malheureusement pas faire. Si vous le permettez, Monsieur Sadr Hajaris, on va évoquer des aspects, des thématiques que vous avez développées dans ce premier tome de vos mémoires, limitées aux années, je rappelle, 1928-1949. Eh bien, le premier thème sera sur la question de l'enseignement, de l'école, sachant que l'école a été rendue obligatoire en 1883 en Algérie, donc suite à la loi Ferry. Et au début, c'était évidemment, le peuple avait peur de la dépersonnalisation. Donc, envoyer des parents faire en sorte que leurs enfants n'aillent pas à l'école, mais les choses, entre-temps, avec le temps, vont changer.
Effectivement, c'est le cas. C'est bien que vous évoquiez ce problème d'enseignement, parce que la génération qui va faire l'insurrection, en fait, elle a été formée à deux écoles, l'école française et l'école arabophone, disons, qui, chacune à sa façon, a forgé l'esprit de résistance, c'est ce que j'explique dans du livre, avec des évolutions particulières. Vous avez bien fait de souligner comment, au début, mon arrière-grand-père, Sid Bachir, voulait absolument empêcher son fils d'aller à l'école, qu'il considérait comme une arme de dépersonnalisation. Et puis, en fait, son fils, mon grand-père, c'est Mohamed Saïd, est devenu un des premiers enseignants instituteurs en langue française. Vous verrez dans l'ouvrage une illustration lorsqu'il enseigne l'arboriculture à ses élèves. Et c'est la légende était que un fils des insurgés de 1871 passe le savoir à ceux qui vont déclencher l'insurrection. Cette image m'a paru tout à fait significative des évolutions. Alors, ceux qui liront le livre verront les particularités de chacun de ces enseignements, francophones et arabophones. L'un nous permettant de nous enraciner dans nos traditions, par conséquent, nous a permis de garder un sentiment de dignité, de personnalité face à l'ère de dépersonnalisation, et le second nous ouvrant les horizons, c'est-à-dire les armes qui allaient nous permettre de nous libérer. Vous trouverez aussi une indication en ce qui concerne la formation psychique, disons, de ces générations, parce qu'il est bien vrai que les événements politiques, historiques et autres sont beaucoup le résultat de l'enfance et de l'éducation reçue, quelque sorte. Et ce que certains auteurs se plaisent à souligner, en quelque sorte, l'opposition fondamentale, irréductible, entre le monde musulman et le monde occidental, serait, selon certains, le résultat d'une caractéristique de l'islam, fanatisme, conservatisme, etc. En fait, j'indique bien, avec des explications, et puis avec tout le contexte civilisationnel européen, comment l'enseignement européen lui-même a contribué à créer cette opposition, avec une connotation de mépris, évidemment, envers la population algérienne musulmane. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se dit, comme quoi tout vient de l'islam, enfin d'un caractère foncier de l'islam, ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien des tendances, effectivement, dans le monde islamique pour aiguiser cette opposition. Mais je crois que le monde européen, dans sa justification de colonialisme, a beaucoup fait pour souligner cette opposition, et même au-delà de choses réelles. Que vous dire encore à propos de...
Rachida Mansour.
Si vous me permettez une remarque, oui, deux choses à propos de l'enseignement et des langues. Il serait peut-être intéressant de vous demander confirmation que la France coloniale a d'abord tout fait pour annihiler, pour ne plus faire exister les formes de transmission du savoir qui se faisaient en arabe jusque-là, y compris sous la régence turque. Donc ils ont d'abord détruit totalement. On parle de 20% d'analphabètes en 1830 et de 80% en 1962. Et ensuite, quand avec Jules Ferry, qui n'a pas dit que des choses intéressantes, qui a peut-être ouvert l'école, mais qui était un colonialiste fervent, Jules Ferry, quand il a rendu obligatoire l'école, c'était pour une minorité infime d'Algériens. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on peut parler de scolarisation relative.
Oui, oui, oui. Et s'il ne l'a fait, si Jules Ferry a fait ça, et l'administration française en général, c'était pour avoir des auxiliaires,
c'est ça,
lettrés en français et susceptibles, entre guillemets, d'asseoir, de justifier la colonisation. Donc ce n'était pas du tout désintéressé ou pour la civilisation. Plus tard, cette tactique, disons, ou stratégie s'est retournée contre le colonialisme, puisque cet enseignement nous a donné des armes pour la libération et pour remettre en cause, au nom même des valeurs, de certaines valeurs républicaines, démocratiques, universalistes, nous avons combattu le colonialisme au nom même de ses propres valeurs de l'Occident, du moins les valeurs démocratiques.
Moi, j'avais toujours beaucoup aimé cette réflexion de Mustapha El-Sharif, qui expliquait que une des raisons de l'éveil nationaliste reposait sur la contradiction que la France se présentant comme la France des droits de l'homme, comme la France de terre d'accueil, terre d'asile, etc., faisait absolument le contraire en Algérie, en écrasant, en opprimant la population. Et donc, de ce discours qu'elle voulait transmettre par le biais de l'école, était totalement contradictoire avec le vécu concret des gens. Et ça, il ne pouvait pas y avoir de meilleur outil que celui-là.
Oui, oui. Et lorsque le président de la République française, Vincent Auriol, je me souviens plus si c'est vers la fin des années 40 ou le début des années 50, ils ont fait un effort pour ouvrir en plus grand l'accès de l'école. C'est-à-dire, à l'époque, si auparavant les parents algériens essayaient de faire pression, verser des bakchiches pour que leur enfant n'aille pas à l'école, là c'était vraiment la course,
et,
pour que leurs enfants puissent, il y avait des files énormes. Et là ils ont ouvert plus ou moins, mais toujours avec cet esprit que d'avoir une génération qui soit, qui défendent les...
Des auxiliaires,
voilà,
comme vous
des
le disiez.
Auxiliaires.
Mmh. Et concernant Monsieur Sadr Hajras, concernant les filles, l'école des filles.
Oui, alors pour les filles, évidemment, l'évolution s'est faite progressivement. Il n'y avait pas beaucoup de filles scolarisées, c'est sûr. Quand quelques filles étaient scolarisées dans un village, par exemple, c'était vraiment singulier. Je prends l'exemple de l'Erba Abdi Moussa ou de Barwaghiya. On les montrait du doigt quelquefois, avec un brin de...
Enfin, c'était un peu comme s'ils avaient trahi.
Oui, un peu comme, voilà. Parfois même de dérision. Enfin, on disait, tiens, voilà, les filles du Cadi ou les filles de...
Oui, parce que c'était généralement réservé aux grandes familles, aux familles de grands-tons.
Mais plus tard, les filles... donc, parce qu'il y avait le poids de la société, là... laisser sortir les filles. Je prends un exemple, je prends mes sœurs. Hein. Mm-hmm. Alors, au fur et à mesure des années, la première est pourtant famille d'instituteurs, mm-hmm. Hein, mon père. La première a étalé jusqu'au certificat d'études. Pourtant, nous habitions dans l'enceinte de l'école. Hein. Il n'y avait pas la difficulté que les filles traversent le village pour aller à l'école.
Pas traversé.
Donc, la première est allée jusqu'au certificat d'études, la seconde jusqu'au brevet, la troisième jusqu'au bac, et la quatrième, elle a fait des études de sage-femme à l'université.
Oui.
C'est vraiment typique. Ceci dit, dans l'enseignement arabophone également, il y a eu cette progression, et l'enseignement des médersas, dont certaines, la majorité, étaient animées par l'association des ulama, et il y avait d'autres qui étaient patronnées par le PPA, MTLD, on fait une place aux filles, une place substantielle. Et Ben Badis en particulier a vraiment fortement encouragé l'éducation des filles.
Y compris celle de sa propre famille. Il a commencé par
cette... de sa propre famille. Donc c'était déjà un grand pas en avant.
Ouais, c'est pour ça que je trouve très intéressant dans le livre de Monsieur Hajras, justement ces longues descriptions. Et du mouvement des ulamas et du personnage Ben Badis, que enfin vous montrez bien qu'il est quand même très particulier dans ce courant lui-même traversé par différentes tendances, mais en tout cas c'est bien parce que la France commence par tout raser que les Algériens étaient en attente de nouvelles structures pour apprendre. Et ça explique, et ça j'ai souvent remarqué que les jeunes ne le comprenaient pas toujours, ça explique pourquoi le recouvrement de la langue arabe était si important, pourquoi il a fait partie des revendications.
Tout à fait. Tout à fait. Et on peut dire que l'esprit d'insurrection, de rébellion, était alimenté conjointement et par l'école française avec toutes ses limites, toutes ses déformations, et l'école arabophone. Et les générations, c'était pas un niveau, on parle numériquement, mais si on prend les insurgés de novembre, enfin des biographies individuelles, on se rend compte que, en général, la moyenne, c'était ceux qui avaient le certificat d'études, maximum école primaire supérieure, mais ça a été vraiment des cadres du mouvement politique et du mouvement insurrectionnel.
Il y a une thématique qui nous tient à cœur, c'est la question de la culture, du mouvement associatif, qu'il soit sportif, culturel, les SMA, les ulama. Si vous voulez bien, on va un peu évoquer avec vous cette floraison de mouvements associatifs et l'impact des partis politiques sur ces associations.
Oui, vous faites bien de souligner l'importance du mouvement associatif. Je considère, ce n'est pas un a priori, mais c'est un constat qui reste valable d'ailleurs à mon avis à toutes les époques que nous avons traversées depuis les années 40, à savoir que le mouvement associatif de toutes sortes, et notamment culturel, au sens large du terme. C'est le soubassement du mouvement politique, c'est comme résultat d'un travail de la société sur elle-même, c'est ce qu'on néglige en croyant que la politique est surgie du néant. En fait, il y a vraiment, un travail souterrain qui n'est pas toujours forcément organisé, qui se produit à l'insu même des individus, des collectivités, et qui fait que les consciences évoluent jusqu'à la prise de conscience que les changements souhaitables doivent être faits. Mais il faut un niveau culturel. Je voudrais en passant dire que éclairer cette interaction entre le culturel et le politique à propos de cette fausse querelle qu'avait initié Malek Bennabi en disant que la colonisabilité, à savoir que pour se libérer, l'engagement politique non seulement n'était pas nécessaire, mais qui était nuisible. Ça allait jusque-là, parce que au point que les associations, y compris des ulama et autres, ont condamné ce point de vue, parce qu'ils reprochaient aux ulama de s'intéresser à la politique. En fait, les deux choses sont liées. Ils prétendaient que il fallait d'abord éduquer les gens, etc., lorsque tout le monde sera instruit, etc., il y aura une libération, peut-être spontanée, entre guillemets. En fait, ils négligeaient le fait que l'action politique elle-même est un élément d'élévation de la culture.
Absolument.
Lorsque la montée du mouvement national, les mentalités des gens ont évolué. Il y avait un besoin, une soif de culture, il y avait une soif de... Donc, il y a une interaction entre les deux. Dire que là, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Les deux choses sont très, très liées. Et effectivement, à l'époque que je décris, là, dans les années 40, bien entendu, auparavant, il y avait les pionniers du mouvement politique qui étaient réprimés, mais ils restaient malgré tout une minorité. Une minorité courageuse qui avait un impact réel dans le discours de Messali en 36 sur le stade. Ça correspondait bien et bien d'autres exemples de ce genre. Mais vraiment, le mouvement national, la revendication nationale a grandi dans les esprits à partir du moment où, en liaison avec les évolutions internationales, le débarquement américain, la guerre mondiale, la défaite de la France. Donc, en même temps, il y a eu ces facilités et cette volonté de développer un mouvement, qu'il soit sportif, qu'il soit théâtral, qu'il soit vraiment toutes sortes d'activités. L'évolution du théâtre aussi. À Barouaguilla, j'étais tout jeune, il y avait Mahidi Mashtarzi qui commençait et Keltoum faisait ses débuts à ce moment-là. Alors nous, on était
D'ailleurs, il y a une photo magnifique de Keltoum et la photo que l'on connaît devant. De Mashtarzi.
Voilà, il y a cette interaction, une fois de plus, que je souligne. Et évidemment, il y avait donc intérêt pour le mouvement nationaliste, intérêt à développer les activités culturelles. Et c'était le fait aussi bien des organisations nationalistes, PPA, UDMA, que des organisations communistes. Le journal Liberté, par exemple, c'était le seul à avoir une page culturelle très fournie, avec à la fois des troupes théâtrales arabophones ou berbérophones ou francophones. Beaucoup d'artistes ont émergé avec l'encouragement des communistes algériens à ce moment-là. Béchir Hadj Ali, entre autres, a joué un rôle, il était proche de l'ANPA. Et la municipalité de gauche, municipalité Tuber à l'époque, c'est elle qui a ouvert le conservatoire plusieurs de ces ceux qui allaient devenir des vedettes, des chanteurs, y compris l'ANPA, y compris.
À partir du moment où celui qui opprime a intérêt à diviser, a intérêt à isoler, tout en semant une misère commune, il se crée automatiquement le besoin de se retrouver, de se réunir, et donc sous quelque forme que ce soit, ça devient une espèce de revendication identitaire. Oui. Nous, on n'a rien à voir avec vous. Oui. Enfin, l'Algérie n'est pas la France.
Oui, on peut dire, en enchaînant, que quand la vie culturelle s'enrichit, c'est le mouvement politique progressiste qui se renforce, et inversement, l'affaissement de la conscience politique collective, etc., correspond toujours en même temps à l'affaissement des efforts culturels, du niveau culturel. D'où l'importance aussi du travail culturel.
Alors, M. Sadak Hajar, vous étiez donc à la tête au niveau de l'Arba'a, de la section des scouts musulmans algériens. Est-ce que vous vous rappelez de l'hymne national des SMA ?
Que chef ouhaïa ?
On peut avoir une petite strophe ?
Que chef ouhaïa, talqa al-muhaïa, addi ila al-huda, risalat al-fida. Bon, j'avais une voix beaucoup plus...
Elle est toujours...
C'est moi qui enseignais ça.
Elle est toujours...
Entre parenthèses, les paroles nous paraissaient assez fermes, enfin, oui, hermétiques.
Hermétiques.
Parce que c'était en arabe...
Classique.
Il y avait un passage qui était parlant, là, min kulli jinsin min kulli din, c'est-à-dire le scoutisme de toutes les... Ça se comprenait.
Oui, de toutes les races, de toutes les religions.
Voilà, donc c'était un... Mais à part ça, je dois dire que... Par contre, il y avait des chants scouts, en arabe populaire en particulier, des chants patriotiques. Plus ils étaient en langue populaire, et plus ils enthousiasmaient, enfin, sur des bases beaucoup plus tangibles.
Voilà. La ferveur.
Autrement, c'était seulement le prestige de la langue faisait que ça nous semblait enthousiasmant. Il y avait les chants libanais, d'origine libanaise aussi, comme Moutaimi, etc. Mais le plus exaltant, c'était Minjibalina, parce que les paroles étaient très, très simples. Tout le monde les comprenait.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir, quand on rencontre, quand on a la chance de rencontrer des Moudjahidines, je parle surtout des hommes, parce que je ne crois pas que le mouvement scout ait eu l'occasion de s'adresser à des filles. On est étonné de voir le nombre de nationalistes qui sont passés par l'école des scouts.
Absolument, c'était une pépinière. Oui. C'était une pépinière de militants et de cadres pour le mouvement. Pratiquement, d'ailleurs, il y avait une espèce de courant naturel, normal, parce que le contenu lui-même des activités du scoutisme était à la fois patriotique, je parle du point de vue des valeurs morales, la solidarité, l'honnêteté, etc. Et en même temps, il y avait une formation qu'on pourrait appeler paramilitaire, mais au sens... mais c'était...
préparation physique.
On ne transgressait pas le scoutisme traditionnel, tel que enseigné par les Européens, par Baden-Powell, etc. C'était des objectifs militaire en fait qu'il menait bien, c'était nous le sommes appropriés de cette je vous dirais que d'ailleurs mon initiation au scoutisme qui m'a facilité ensuite l'activité à l'Alba, c'était lorsque j'étais au collège de Blida. Il y avait un condisciple israélite juif qui était à côté. Ils étaient brimés à cette époque là d'ailleurs, ils tenteront pas à être renvoyés, mais ils se défendaient par leurs associations et en particulier les éclaireurs israélite, et il avait un livre de l'éclaireur, et je le voyais avec beaucoup de curiosité, mais je lui ai emprunté, avant que se crée le mouvement scout à l'Alba, je lui ai emprunté, et je dévorais ça, évidemment, ça m'a donné les éléments qui m'ont permis de... La finalité du mouvement scout, en fait, c'est être au service de la société, et de nature pacifique dans des conditions normales et de nature
guerrière,
beaucoup plus guerrière.
Période.
Voilà. Et par la suite, Kerem Issoumazir également.
Alors justement, alors comment c'est Kerem Issoumazir, le chant?
Oui.
Vous pouvez nous donner une petite strophe aussi, on peut en profiter.
Kamis ou Mazir, et Tijanar Yulid, Atrasaya, Gourfazir, et Manouva, Nartezir.
Kamis ou Mazir, et Tijanar Yulid, Atrasaya, Gourfazir, et Manouva,
You said the
Nous avons eu, Souad, la chance extraordinaire de rencontrer M. Saïd Rajas à l'occasion d'un voyage qu'il a fait récemment à Alger pour présenter son livre, en fait.
Oui.
Quand une nation s'éveille.
Oui, son livre donc, qui est sorti officiellement lors du dernier Salon international du livre d'Alger, voilà, le SILA. Et pour revenir donc justement au rôle et au travail des SMA, des scouts musulmans algériens, ben, l'ami Mahfouf a déniché quelques témoignages, et pas des moindres d'ailleurs, et c'est dans Bakri.